peut-être vous choquer, mais Gabriel, vous l'aimiez vraiment?
Oui.
Est-ce que vous pensez que vous êtes responsable de sa mort?
Non, je ne suis pas responsable de sa mort, j'estime qu'il y a d'autres responsables.
Alors lesquels?
J'accuse toute la société, les juges, les parents bourgeois. Et je voudrais que, après ce que je viens de dire, la presse s'arrête de parler de ça, de cette affaire qui est pénible pour moi et pour d'autres, et que bon, ça se tasse et qu'on oublie, quoi. Enfin, moi, j'oublierai pas, mais qu'on oublie.
Bonsoir. Quand l'amour est interdit et mène à la prison, au désespoir et à la mort. C'était à la rentrée scolaire 1969 à Marseille. La France se réveillait groggy en découvrant la véritable histoire de Gabrielle Russier, une professeure de 32 ans qui venait de mettre fin à ses jours après avoir aimé passionnément Christian Rossi, l'un de ses élèves âgé de 17 ans. Un amour hors la loi, bien plus qu'un tragique fait divers, cette histoire devient alors l'affaire Gabrielle Russier. Un événement qui va créer débat, polémique, une vague d'émoi jusqu'au sommet de l'État, jusqu'à placer la justice en accusation, critiquée pour son manque de cœur et de compassion, ne voyant dans cette romance qu'un pur et simple détournement de mineur, un délit passible de prison aux yeux de la loi, surtout lorsque ce délit a été perpétré par une personne garante de l'autorité publique et de la morale, une professeure. C'est cette affaire, l'affaire Gabrielle Russier, qui a inspiré le film « Mourir d'aimer » avec Annie Girardot, que nous avons choisi de raconter ce soir à la faveur d'un livre qui vient de sortir et qui retrace les minutes de cette tragédie. Nous essaierons de voir pourquoi cette histoire, 50 ans après, demeure emblématique et pourquoi elle reste inscrite dans la mémoire judiciaire.
20h-21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
Et ce soir, dans l'heure du crime, l'affaire Gabrielle Russier, histoire qui, en cette année 1968, va bientôt alimenter la chronique judiciaire. Un amour interdit avec un de ses élèves, liaison qui va longtemps rester secrète. En ces premiers mois de 1968, Gabrielle Nogues, née Gabrielle Russier, est une professeure heureuse. Elle a 30 ans, a réussi son agrégation de lettres modernes et a été nommée dans un établissement qui lui plaît. L'immense lycée Nord de Marseille, aujourd'hui lycée Saint-Exupéry, qui domine la rade de la ville et s'ouvre sur la Méditerranée. Cette Parisienne, fille de l'avocat René Russier, enseigne ici le français et le latin aux classes de 3e et de 2e. Gabrielle est séparée depuis quelques mois de son mari, Michel Nogues, un ingénieur. Avec lui, la professeure a eu 2 enfants, des jumeaux, Joël et Valérie, qui vivent dans son appartement d'Aix-en-Provence. Elle est en instance de divorce, mais à l'époque, ce genre de procédure qui entraîne des tonnes de paperasse est interminable. Alors que mai 68 ne va pas tarder à déferler sur la France et faire descendre élèves et professeurs dans les rues, Gabrielle Russier préfigure ce vent de modernité. Une prof plus proche de ses élèves, amicale, abordable, un brin bohème, loin de l'image parfois rigide dont sont souvent affublés les enseignants de l'époque. Gabrielle Russier n'hésite pas à entraîner ses élèves de seconde C, voir des expositions et des spectacles. Au mois de mars 68, elle organise un voyage scolaire au ski dans la petite station d'Ancelles, dans les Alpes du Sud. Et puis une autre sortie à Orcières-Merlette. Au fil des semaines, l'un de ses élèves, Christian Rossi, 15 ans et demi, retient son attention. Il porte déjà une barbe et on lui donne généralement 2 ou 3 ans de plus. Il lui est familier car elle connaît bien ses parents. Le couple Rossi, Mario et Marguerite, des éminents et respectés professeurs réputés pour leur attachement au Parti communiste, aux idées de gauche, toujours prompts à défendre les idéaux de liberté. Le rapprochement entre la professeure et son élève est irrépressible. Les événements de mai 68, ces manifs auxquels vont participer une bonne partie des enseignants et des élèves du lycée Nord, vont achever de sceller ce pacte amoureux interdit. Une liaison qui doit rester impérativement secrète, même s'il va être difficile d'empêcher la rumeur de circuler. Une femme mariée, mère de 2 enfants, dans les bras d'un garçon qui a 15 ans de moins qu'elle. Tous les ingrédients d'un possible scandale. On va le voir bien sûr. Le fait est que la rumeur d'une liaison va effectivement se répandre et provoquer la colère des parents de Christian qui ne vont pas du tout apprécier cette relation et envisager de saisir la justice. En ce mois de juin 1968, Gabriel Russier, 30 ans, ne s'affiche pas ouvertement avec Christian Rossi, 16 ans. Elle s'efforce de garder le secret. Si cette histoire était révélée, elle pourrait faire scandale et lui coûter sa place. En dépit des précautions prises par les amants, le bruit court. Il parvient aux oreilles des parents de Christian, Mario et Marguerite Rossi. Ce couple d'enseignants a beau avoir les idées larges et épouser les préceptes libertaires de mai 68. Il est choqué par ce qu'il apprend, redoute que cette histoire ne perturbe leur fils. Les Rossi, qui avaient jusque-là beaucoup d'estime pour Gabriel Russier, se fâchent. « Cessez de voir mon fils, laissez-le tranquille », lui lance Mario Rossi. La professeure se retrouve totalement désemparée, mais n'a aucune intention d'obéir à cette demande. Tout au contraire, la liaison ne va cesser de s'amplifier, s'apparentant à un jeu de cache-cache. À la mi-juillet, le couple clandestin se rend en Italie, jusqu'à Rome. Christian a prétexté un voyage en stop avec un de ses amis, mais c'est Gabrielle qui le récupère avec sa voiture à Nice. Elle ira encore le chercher, secrètement, en Allemagne, après un séjour d'échange scolaire. Gabriel Russier emménage à Marseille avec ses deux enfants. La liaison cachée se poursuit de plus belle. Les parents de Christian finissent par apprendre les dessous du voyage en Italie. Ils ne supportent pas qu'une professeure encourage leur fils à mentir. Christian se révolte. Il déserte de plus en plus souvent le foyer familial et va passer ses nuits chez la professeure. Mario Rossi somme à nouveau la prof de cesser cette fréquentation illégale. Les Rossi ne saisissent pas la justice, mais ils contactent un ami avocat. Celui-ci, maître Christian Grisoli, confie alors à l'un de ses confrères. Le père me dit que son fils ne travaille plus. Il me harcèle pour que je mette fin à cette relation. Mario Rossi alerte également le procureur de la République. Rossi est un éminent professeur, un notable dans la vie intellectuelle marseillaise. On l'écoute. Gabriel Russier est placé sous discrète surveillance policière. Le 31 octobre 68, la professeure prend la route pour Argelès-Gazost, une localité des Hautes-Pyrénées où les parents Rossi ont scolarisé leur fils pour l'éloigner de Marseille. Elle part retrouver son jeune amant, sans savoir que les gendarmes sont informés de cette escapade. Alors qu'elle fait monter Christian dans sa voiture, elle est prise en flagrant délit de détournement de mineurs, conduite à la brigade de gendarmerie, interrogée et cette fois relâchée, avec obligation de rejoindre Marseille et de ne plus revoir l'adolescent. Les choses, toutefois, ne vont pas en rester là. Christian Rossi, 16 ans et demi, ne va pas supporter son exil au fin fond des Pyrénées, loin de la femme qu'il aime. Il va fuguer, choisir de disparaître, actionnant du même coup, et peut-être sans le savoir, la mise en route de la machine judiciaire. Ce 25 novembre 1968, Mario Rossi, le père de Christian, dépose officiellement plainte contre Gabriel Russier pour enlèvement et détournement de mineurs. Incrimination très grave qui se fonde sur la disparition totale depuis une quinzaine de jours de Christian. Celui-ci s'est enfui du lycée dans lequel il était inscrit dans les Pyrénées et n'a plus donné aucun signe de vie, aucune nouvelle. Ses parents le soupçonnent d'avoir rejoint en douce Marseille pour y retrouver Gabriel. La professeure sait très certainement où il se trouve. Il est probable qu'ils se voient tous les deux en cachette. Le procureur demande donc que la jeune femme soit surveillée de très près et suivie. En épiant ses moindres faits et gestes, il est tout à fait possible qu'elle mène la police au fils Rossi. Gabriel Russier sait qu'on s'intéresse à elle. Elle utilise toutes les ruses possibles pour semer les enquêteurs, allant jusqu'à changer de tenue et à porter une perruque blonde pour tromper leur vigilance. Une quinzaine de jours après le dépôt de plainte, le 4 décembre, Gabrielle Russier est interpellée, gare Saint-Charles. Elle indique aux policiers qu'elle se renseigne sur les horaires de train Paris-Marseille à la demande de son père, qui doit venir lui rendre visite. Le guichetier rectifie. Il précise aux fonctionnaires que cette usagère était en fait désireuse de se rendre à Turin. La prof est alors soupçonnée d'organiser un voyage pour rejoindre Christian Rossi, un mineur recherché, à les placer en garde à vue. Cette fois, le procureur de Marseille ouvre une information judiciaire. Tout s'accélère. Gabriel Russier se retrouve dans le cabinet d'instruction numéro 11 du palais de justice, face au juge Bernard palanque. C'est ce magistrat de 44 ans expérimenté, il a déjà eu en main de gros dossiers visant le grand banditisme, qui a été désigné pour suivre cette affaire, affaire qualifiée de sensible par le procureur qui demande la plus grande discrétion sur le sujet. Face au juge, Gabrielle Russier ne se démonte pas. Elle indique, sans convaincre le magistrat, qu'elle ignore où se trouve Christian. Le juge Palanque apprend alors, par une connaissance de la professeure, que le jeune garçon se trouverait à Nice. Il est rassuré, il en informe les parents qui sont en colère contre la professeure. Dans la soirée, Gabrielle Russier est emprisonnée au Baumettes, sous le numéro d'écrou 5785. Christian Rossi réapparaît et Gabrielle Russier va être libérée. Personne n'a alors envie de continuer d'en découdre avec la justice. Justice qui, au nom de la loi et de la morale, va refuser de tirer un trait sur le dossier Russier. Le 8 décembre 1968, Christian Rossi, l'amant trop jeune, sort de sa clandestinité. Il réapparaît à la grande satisfaction de ses parents qui se disent soulagés. Le juge des enfants de Marseille, Georges Bénard, le place provisoirement dans un centre d'observation pour mineurs, un foyer. Pour le moment, il ne souhaite pas retrouver la maison familiale. Il se comporte très bien dans ce foyer. C'est un garçon ponctuel, sérieux, qui ne fait aucune difficulté. Gabrielle Russier, elle, est relâchée et peut rentrer chez elle le 10 décembre. Les amants terribles, décidément fusionnels, ont interdiction de se revoir, mais ils passent outre. La police dresse des rapports précis sur ces rendez-vous qui nourrissent le dossier d'instruction. Pour couper court à ce manège, les parents de Christian décident de son placement dans un établissement psychiatrique. Le professeur sombre à son tour dans la dépression. Le 18 février, elle confie à une amie d'enfance « Tout ce qui m'est arrivé tient de San Antonio et de Racine. Cela se terminera peut-être par un fait divers. » Les semaines passent et le juge Bernard Palanque songe à délivrer un non-lieu dans ce dossier de détournement de mineurs. Cette affaire lui paraît anecdotique. Il a d'autres chats à fouetter, mais le parquet de Marseille ne l'entend pas du tout de cette oreille. Le procureur estime qu'on ne peut pas classer l'affaire. D'abord parce que les faits sont constitués, ensuite parce que le parquet général et donc la chancellerie, le ministère de la Justice, exigeront un procès. Le juge cède et renvoie Gabrielle Russier devant le tribunal correctionnel. Coup de théâtre, le 19 avril, Christian disparaît à nouveau. La professeure est accusée d'avoir organisé cette fuite. 5 jours plus tard, un mandat d'amener est délivré à son encontre. Gabrielle Russier retourne à la prison des Baumettes, cellule numéro 13, au rez-de-chaussée du quartier des femmes. Elle ne comprend pas vraiment ce qui lui arrive. Je ne regrette rien, sinon d'avoir entraîné beaucoup de gens dans ce qui apparaît aujourd'hui comme un désastre, écrit-elle à ses parents. Sa demande de mise en liberté est refusée. La détention est nécessaire à la manifestation de la vérité, écrivent les juges. Le 10 juillet se tient le procès de Gabrielle Russier. Cette fois, la presse est là, en nombre. L'affaire excite les imaginations et permet quelques titres alléchants. L'audience se tient à huis clos. La professeure est accusée d'avoir bafoué l'autorité parentale, d'avoir failli à sa fonction, d'avoir usé de son ascendant sur un élève. Le jugement tombe, 12 mois avec sursis. La prof peut espérer de bénéficier de l'amnistie du nouveau président, Georges Pompidou. Gabrielle Russier croit avoir gagné, mais elle se trompe. La justice a condamné Gabrielle Russier à du sursis, mais la justice ne se satisfait pas de ce jugement. Elle fait appel. Il y aura donc un deuxième procès pour Gabrielle Russier qui sent alors que cette histoire est en train de l'anéantir. Après sa condamnation, Gabrielle Russier a tout fait pour échapper à son encombrante notoriété, à ses journalistes qui ont souvent romancé ou déformé son histoire, aux photographes qui l'attendaient parfois au bas de son immeuble. Elle part se mettre au vert dans les Pyrénées, derrière les murs d'un centre psychothérapeutique. Elle est alors préoccupée par ses enfants. Elle a demandé à son ex-mari de les surveiller et de les aider à grandir. Elle est consternée par l'attitude de l'éducation nationale qui lui réclame des comptes au nom de la morale, par l'obstination de la justice qui répète à tout va que cette affaire doit servir d'exemple. L'enseignante est encore terrorisée à l'idée d'affronter une nouvelle fois la correctionnelle. Pour ce second procès, prévu le 15 septembre et au terme duquel une peine de prison ferme pourrait être prononcée, elle pourra compter sur l'un des meilleurs avocats du moment, le bâtonnier Albert No. Le 30 août, Gabrielle Russier rentre chez elle, à Marseille. Elle n'est alors plus que l'ombre d'elle-même, désespérée. La professeure ne se présentera jamais à son second procès. Au petit matin du lundi 1er septembre, Gabrielle Russier ouvre le gaz dans son appartement. On la retrouvera sans vie, habillée sur son lit, non défait. Le suicide de Gabrielle Russier suscite une vague d'émotion et d'incompréhension. Même le président Georges Pompidou est interrogé sur le sujet en pleine conférence de presse. Il répond en citant un texte de Paul Éluard.
Je ne vous dirai pas tout ce que j'ai pensé d'ailleurs sur cette affaire, ni même ce que j'ai fait. Quant à ce que j'ai ressenti, comme beaucoup, eh bien, comprenne qui voudra, moi, mon remords, ce fut la victime raisonnable au regard d'enfants perdus. Celle qui ressemble aux morts, qui sont morts pour être aimés. C'est de l'Éluard.
La justice, de son côté, a le mauvais rôle, pointé du doigt, accusé d'avoir poussé à bout une femme qui était loin d'avoir commis l'irréparable. Le film « Mourir d'aimer » avec Annie Girardot enregistrera 4,5 millions d'entrées. Christian Rossi, après avoir déclaré qu'il s'agissait d'une vraie histoire d'amour et non pas d'une histoire de passion, refusera toujours d'en dire davantage, gardant pour lui et pour toujours les secrets de cette liaison interdite.